VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter ce bulletin d'information, il est 19h en temps universel. Lors d'un sommet extraordinaire à Addis Abeba, l'Union africaine a adopté plusieurs réformes visant à rationaliser l'organisation continentale et à obliger les États membres à respecter leurs obligations financières. Paul Kagame, président en exercice de l'Union, a salué les progrès réalisés lors de la rencontre ce week-end, malgré le rejet de certaines de ses propositions de réforme. En Centrafrique, 3 soldats ont été tués et 3 autres blessés samedi dans une fusillade entre militaires à Bambari. Tout est parti d'une dispute entre des éléments du génie militaire à propos de conditions sécuritaires et financières pour l'exécution de travaux, selon un responsable de l'armée. 7 pêcheurs ougandais ont été tués par balle et un autre blessé par des miliciens congolais présumés sur le lac Albert samedi, a déclaré la police ougandaise. Ils ont été abattus alors qu'ils entraient dans l'eau pour chercher le corps de leur collègue, tué par le même groupe la semaine dernière, selon la police. 16 membres du personnel de l'OMS luttant contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC ont dû quitter Beni, où un obus a touché leur maison vendredi lors d'affrontements entre des casques bleus et des rebelles. Ce n'était pas une attaque délibérée contre la villa, a indiqué le coordonnateur à Beni, Michel Yao, précisant qu'il n'y avait pas de blessés. En Guinée équatoriale, le Parti citoyen pour l'innovation, dissous par la justice et seul parti d'opposition détenteur d'un siège au Parlement, a réclamé le retour de son député Yesus Mitogo à l'Assemblée, a indiqué son leader Gabriel Nseyob Obiang. Le mois dernier, le président Teodoro Obiang Nguema avait dit que le député récupérerait son siège à sa sortie de prison. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a envoyé ce dimanche au roi du Maroc Mohamed VI son traditionnel message pour l'anniversaire de l'indépendance du pays, sans répondre à sa proposition de lancer un dialogue franc et direct. Le 6 novembre, Mohamed VI a proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin d'améliorer les relations avec Alger, détériorées par le contentieux du Sahara occidental. Les autorités algériennes n'ont toujours pas réagi officiellement à cette proposition. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa va rembourser 500 000 rands de fonds électoraux perçus d'une entreprise liée à son fils. Après avoir reconnu avoir menti au Parlement, il avait affirmé que ce paiement avait été reçu en octobre 2017 par son fils comme consultant de l'entreprise Bossaza de services informatiques qui travaille avec des institutions publiques. Il avait ensuite dit que cet argent était une donation pour sa campagne à la présidence de l'ANC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a affirmé qu'il disposait de l'enregistrement du meurtre de Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul, mais qu'il ne souhaitait pas l'écouter en raison d'un contenu très violent. J'ai été intégralement briefé, je sais exactement ce qui s'est passé, a-t-il déclaré dans un entretien Fox News diffusé ce dimanche. Et dans cet entretien, il a par ailleurs annoncé de nouveaux départs à venir au sein de son équipe rapprochée, disant avoir au moins 2 postes en tête. Invité à s'exprimer sur le secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, il a dit être partagé sur ce qu'il fait. Quant à la ministre de la Sécurité intérieure, Kirsten Nielsen, le président a estimé qu'elle manquait de fermeté sur l'immigration, disant vouloir qu'elle soit beaucoup plus dure sur la frontière avec le Mexique. Un sénateur républicain a appelé ce dimanche à des primaires à droite pour l'élection présidentielle de 2020, lors de laquelle le président américain a l'intention de briguer un second mandat. Jeff Flake, sénateur sortant de l'Arizona, estime que quelqu'un doit se présenter afin de rappeler aux républicains que cela signifie vraiment d'être conservateur et aussi d'être correct, a-t-il dit. Et en France, des gilets jaunes ont à nouveau ralenti la circulation pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant et l'un d'entre eux a été grièvement blessé dans un nouvel incident. Sur environ 150 sites, les manifestants ont appelé à reconduire le mouvement. Prochain bulletin, c'est dans une heure. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Eric Manilakiza avec vous, fidèles auditrices, fidèles auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Aujourd'hui, nous parlons de la dîme. La pratique de donner la dîme à Dieu, c'est-à-dire la dixième partie de son revenu, est une très vieille histoire. Cela commence avec Abraham, qui s'appelait alors Abram, lorsqu'il revient vainqueur après avoir délivré Lot, son neveu. Il donne la dîme de tout au sacrificateur Melchisédek. Plus tard, Jacob décide aussi de donner la dîme à Dieu. L'expression « donner » montre qu'il le faisait de leur plein gré. Ensuite, cela devient une obligation légale, comme le dit la Bible dans Lévitique. Et la dîme devient la ressource des Lévites qui faisaient le service du temple. On a l'équivalent de la dîme chez les musulmans, c'est ce qu'on appelle la zakat, qui incarne le troisième pilier de l'islam. Et la zakat fut instituée à Médine la deuxième année de l'Hégire. On donnait donc la dîme, ça date de très longtemps, mais doit-on aujourd'hui donner la dîme? À quoi ça sert? Est-ce une obligation? Est-ce que si on ne donne pas la dîme, on ne verra pas le royaume de Dieu? Nous avons en invité en ligne le père Gérard Moret, qui est à New York. C'est le curé de la paroisse Sainte-Famille à New York. Mon père, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons un deuxième invité, c'est une invitée, Kadiatou Traoré. Bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de Dialogue Religion, la Voix de l'Amérique.
Nous avons aussi des auditeurs qui vont participer dans cette émission. Mon père, je vais commencer par vous. La dîme, aujourd'hui, est-ce que les gens la donnent? Autrefois, c'était une obligation, mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une obligation.
Bon, selon l'Église catholique, tous les fidèles ont l'obligation de soutenir les œuvres de la religion. Alors, ils ont l'obligation de soutenir leur paroisse et en général les autres œuvres de charité, d'éducation, d'aide financière aux pauvres. Mais c'est une obligation qui n'est pas précisée sur le 10% des revenus. C'est pas que si vous ne payez pas 10% de ce que vous gagnez, que vous serez hors de la loi de Dieu. Non. Maintenant, l'Église laisse à la discrétion des fidèles de décider combien ils voudraient donner comme offrande de l'Église, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une obligation générale. On doit soutenir les frais de l'Église parce que l'Église, ce n'est pas un négoce, c'est une œuvre de prière, c'est une œuvre de Dieu qui dépend de la générosité des fidèles.
Est-ce que ne pas donner est sans péché?
Bon, de donner rien, ça signifierait, si on peut donner, parce qu'il y a des pauvres qui n'ont pas les moyens de donner à l'Église, ces gens-là ne sont pas obligés, mais ceux qui ont de l'argent et qui refusent de donner à l'Église, c'est vraiment offense en contre de Dieu. Ça dépend de leur conscience de cette obligation, mais je pense que les chrétiens qui ont un peu de catéchisme, ils sont conscients que l'Église dépend de la générosité des fidèles. Dans mon expérience, dans une paroisse francophone à New York, les fidèles africains étaient très conscients de leur obligation de soutenir la paroisse, et les autres fidèles avaient moins développé ce sens d'obligation et ce sens de de faire un don chaque année. Mais ça existe parce qu'en France, vous avez, c'est très connu, le denier de culte. Et quand j'ai fait appel aux Français de participer, un bon pourcentage des fidèles ont répondu que oui.
Oui, est-ce qu'on doit nécessairement donner de l'argent de si on ne donne pas à l'Église, mais qu'on donne à des pauvres ou qu'on aide des personnes en dehors de l'Église?
Oui, non, il y a, c'est, on peut dire, il y a une obligation de soutenir la paroisse, vous assister à la messe, parce que c'est votre maison, on peut dire, la maison de Dieu, c'est la maison des fidèles de Dieu. Alors, et si l'Église n'a pas d'autre moyen de soutenir les frais, de maintenir cette Église, ça dépend des fidèles. Mais on peut aussi choisir, bon, nous avons un couvent des bonnes sœurs, je voudrais soutenir leurs œuvres, je voudrais faire des dons aux missionnaires qui sont dans d'autres pays. Et ça, c'est un autre moyen de faire le dîme.
Merci. Reste en ligne. Nous aurons sans doute des questions des auditeurs. Nous avons Alphonse Mbouaki qui est à Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Voilà.
Par rapport à cette question.
Vous dites que la dîme est une obligation divine. Ça, c'était dans l'Ancien Testament.
Mais même dans les nouveaux, je ne sais pas ce que vous dites. Les pères, c'est votre intervenant là. En tout cas, je n'ai pas le passage en tête, mais vous avez lu à lire ça concernant la dîme, bien utiliser le verbe à l'impératif. Donc, c'est une obligation. Ça concerne les revenus, les 10% des revenus mensuels. Et donc, quand on le donne, c'est pour supporter, supporter l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans les sacerdoces, qui ne vont pas. Allô?
Je vous écoute.
Allô? Qui abandonnent tout et qui travaillent seulement pour le Seigneur, pour Dieu. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de vivre. Et d'autres ont besoin de les vivre. Donc, c'est pourquoi les fidèles sont obligés de payer la Bible.
Alphonse,
c'est une obligation, ouais.
Mais à l'époque, on ne donnait pas la dîme, on mangeait la dîme.
On mangeait la dîme. Oui, à l'époque, c'était, on pouvait utiliser même les revenus agricoles, si on n'a pas l'argent. On utilisait le bien comme les concepts de manioc et d'autres produits agricoles à l'époque. Mais maintenant, là, c'est tout ça en dîme. On utilise l'argent, la monnaie. Donc, je pense que si votre intervenant pouvait vraiment bien lire, comment il verrait le passage où c'est une obligation. Les mots utilisés, les mots utilisés, c'est à l'impératif. Donc, ça, quand c'est un président, même le pasteur, même le conducteur de l'Église, il doit payer la. Ça concerne pas toujours.
Alphonse.
Pas le fidèle.
Alphonse.
Ouais. Ouais. Ouais.
Dis-moi, combien vous payez chez vous? Vous donnez? Combien vous donnez?
Moi, je donne. Je donne l'argent. Ouais. Vous voulez me lancer entre donner et payer? Les vrais et payer. C'est ça?
Oui, est-ce que on vous oblige de donner? À l'RDC?
On ne m'oblige pas. On ne m'oblige pas, mais c'est. Un fidèle qui a grandi dans la foi doit comprendre que c'est une obligation. Ce n'est pas le passé qui m'oblige, mais c'est la Bible qui le dit à l'impératif. Il faut donner. Vous m'excusez.
Merci Alphonse pour votre contribution. Nous revenons ici au studio à Kadiatou Traoré. On a parlé de la zakat qui est une obligation chez vous.
Ah oui,
musulmans.
Et c'est tout à fait le contraire chez le musulman. Il est dit quelque part, il a été cité quelque part dans le Coran, bienheureux en vérité sont les croyants qui prient avec humilité, qui dédaignent toute futilité, qui s'acquittent de la zakat. C'est la sourate les croyants, numéro 23, verset 1-4. Et puis, elle est aussi dans la tradition prophétique. Il est dit aussi à ce sujet dans le Saint-Coran. Prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. Et ça aussi, c'est de la sourate, le repentir, numéro 9, verset 103. Alors, quand on regarde tout ça et qu'on met tout ça ensemble, et la zakat est une obligation dans la religion musulmane pour le musulman et quand il a des avoirs. C'est une obligation. Et qui répond à ces conditions ? Il faut d'abord être un musulman, avoir la propriété absolue et totale des biens assujettis à la zakat, et la valeur du bien soit en perpétuelle croissance, et l'atteinte du seuil imposable de la zakat, l'équivalent de 85 grammes d'or ou de 595 grammes d'argent. Une fois ces conditions remplies, le musulman devrait prélever au moins 2,5% sur l'avoir soumis à l'imposition de la zakat. Et les biens assujettis à la zakat sont divers. Parmi ceux-ci, je peux citer la monnaie, les marchandises, les animaux dans la propriété, et puis les fruits et les céréales. Et tout bien, toute personne qui a un seuil imposable, le seuil imposable de la zakat, toute personne qui a un équivalent de 85 grammes d'or ou de 595 grammes d'argent, tu dois payer obligatoirement la zakat.
Il y a aussi Hassan Omar qui est en ligne, qui dit que la zakat est effectivement obligatoire. Hassan, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à vous, les journalistes.
Je vous écoute.
Moi, ce qui est très important, moi, je crois que la zakat, elle est obligatoire dans la religion musulmane. Comme si bien dit notre collègue, c'est un élément très important. Mais également, il y a un autre élément qui est ce qu'on appelle la sadaqa. Sadaqa, c'est-à-dire le monde qu'il faut donner aux pauvres. Mais la zakat, elle est obligatoire. Elle est obligatoire dans le sens où la personne a les moyens. Donc, lorsqu'il calcule ses biens, que ce soit des marchandises, comme si bien dit votre collègue, soit en monnaie, donc lucratif, lorsque vous calculez, et cette somme, une somme de votre somme, doit partir aux pauvres. Souvent, on ne donne pas à la mosquée comme on fait dans la religion chrétienne, où on donne à l'église, ici on donne aux pauvres. Donc, même si on donne à la mosquée, il distribue et il offre à ces personnes qui sont démunies, que ce soit des handicapés, des pauvres, des gens qui ont des problèmes, par exemple, psychologiques, donc des gens qui sont marginalisés de la société ou qui ont des problèmes et qui ne sont pas aptes à travailler, donc qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins quotidiens. Donc c'est une obligation et chaque personne, chaque musulman qui a donc le moyen de les payer, c'est obligatoire qu'il paye cette zakat. Alors que c'est différent de la sadaqa qui est une autre option, c'est une option que chaque personne doit payer. Par exemple, si vous avez un dollar, 2 dollars, 3 dollars, vous pouvez payer. Mais pour la zakat, c'est différent et il faut payer une somme, donc une base qui est, voilà, lorsqu'on calcule, on donne, voilà, une somme, que ce soit en nourriture, si vous avez par exemple le riz, si vous avez par exemple le maïs, les plaies, et l'ensemble de nourriture, souvent, qui sont consommées dans ces pays-là ou dans cette société-là, vous les donnez. Et donc, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui revient souvent chaque année. Donc, dans chaque année, la personne, le commerçant, oui.
Merci Hassan pour votre contribution. Il y a aussi Pascal Muganguzi qui dit « La dîme est une obligation pour un chrétien qui a reçu Jésus comme son sauveur et dans un autre sens, elle n'est pas une obligation parce qu'il n'y a personne qui fait le recouvrement. Tout chrétien paie ou donne la dîme volontairement, il n'y a pas non plus de suivi. C'est le point de vue de Pascal Muganguzi. Il y a Kwame qui dit « Le christianisme dans son ensemble s'insurge contre les pratiques anciennes de l'Ancien Testament tout en cautionnant la dîme qui est une forme d'impôt destinée au souverain sacrificateur. » C'est le moyen d'enrichissement illicite de ces bourreaux, un moyen d'enrichissement illicite de certains pasteurs qui demandent sans cesse la dîme aux fidèles. Même les fidèles les plus pauvres doivent donner la dîme. Père Moret, vous avez suivi ce commentaire de cet auditeur. Comment vous le percevez?
Bon, la connexion était un peu...
Il parle d'enrichissement illicite et même des églises ou certains pasteurs qui, finalement, en font de commerce.
Oui, non, et c'est un problème à sauvegarder. Et dans l'Église catholique, bien sûr, c'est l'évêque qui surveille sur les paroisses et sur les coutumes et les finances des paroisses. Alors, les prêtres catholiques, en plus de suivi au sujet de l'argent, mais dans une église créée par un pasteur qui parle souvent de l'argent, vous pouvez avoir un grand problème d'abus financiers. C'est une chose, nous avons les églises, et même aux États-Unis, où on prêche des choses, disons, les richesses qui viennent de Dieu, c'est signe de bénédiction, et alors on crée une religion de dollars, une religion de richesses, et vous avez des pasteurs ici aux États-Unis qui sont vraiment scandaleux avec le montant d'argent qu'ils gagnent dans leur église, et ça, c'est pas bien du tout. L'argent donné à l'église doit servir les œuvres de religion et pas les aspirations financières des pasteurs. Et ça, c'est, dans l'église catholique, la pauvreté est toujours prêchée pour une grande raison. On doit imiter Jésus comme il a vécu. Il dépendait de la générosité des apôtres, des saintes femmes et des amis qui ont soutenu sa vie pendant ses années de vie publique.
Merci, mon père. Nous avons l'apôtre Diallo en ligne. Bonsoir, apôtre. Apôtre Diallo, vous m'entendez? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'il y a une mauvaise connexion téléphonique. On va essayer de le retrouver. Il y a le commentaire de Apollos qui dit « Madim est obligatoire ». Ah, voilà. Apôtre Diallo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de Crosspoint. On parle de la dîme. Est-ce que la dîme est obligatoire? À quoi ça sert?
Ça, c'est une très bonne question. Alors, vous savez sûrement toutes les différentes appréhensions et opinions sur la Bible, sur la dîme. Est-ce qu'elle est obligatoire? Avec le Seigneur, rien n'est obligatoire. Je vais expliquer un peu ce que je veux dire. La plus grande offrande, c'est l'offrande du cœur. Proverbe nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux soient sur mes voies. À moins qu'on ne puisse donner son cœur, on ne peut pas donner la dîme.
Oui, donc c'est volontaire.
Une personne à faire quoi que ce soit. Notre vie de marche avec le Seigneur, c'est une vie de choix et de foi.
Et quelle est l'importance de donner la dîme ou l'intérêt?
L'importance de donner la dîme, c'est numéro un, l'expression de confiance qu'on a à Dieu, une reconnaissance et gratitude que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné la grâce et la force de pouvoir l'accomplir. Donc c'est un acte de gratitude, un acte de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Si j'ai un travail, c'est à cause de Dieu. Donc pour cela, je donne la dîme à Dieu en tant qu'un acte de reconnaissance, une expression d'amour.
Et on la donne à qui?
La dîme, elle est donnée à l'Église.
Et l'Église, c'est-à-dire? Le pasteur ou...
C'est-à-dire l'Église qui va permettre à l'Église de prendre soin des différents fardeaux, de prendre soin des pasteurs, de prendre soin du loyer, de prendre soin des différentes dépenses pour que l'Église en tant que corps puisse fonctionner. Mais la réalité est que c'est à Dieu qu'on la donne. Mais l'extension de la main de Dieu, c'est nous, c'est l'Église. C'est pour le bien-être du corps de Christ.
Est-ce que c'est limité toujours à un dixième ou on peut donner plus? Et deuxième chose, on voit quand même des situations, disons, inconvenables dans certains pays, en Afrique par exemple, des pasteurs qui ont transformé la dîme en fonds de commerce.
Vous savez, je vais répondre d'abord à la première question. Le mot dîme vient du mot indigène. Est-ce qu'on peut donner plus que ça? Bien sûr, mais ce ne serait plus une dîme. Une dîme, c'est un dixième. Donc, tout ce qui vient au-delà du un dixième, c'est une offrande. Ça peut être une offrande d'amour ou une sémence. Donc, le mot dîme vient de un dixième. Maintenant, en parlant de ce que des pasteurs en Afrique ou ailleurs ont transformé ça en commerce, je dirais, bon, on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau de toilette. Les gens ont toujours abusé de la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre, mais nous devons se tenir à faire ce qui est juste et ne pas arrêter de faire ce qui est juste parce que certains individus ont perverti la chose, vous comprenez.
Il y a ma consoeur Kadiatou qui semble ne pas être d'accord avec vous.
Oh non, moi je... Non, mais j'écoute, mais je pense que
pour
moi,
même si c'est musulman.
Moi, mon opinion, même si on ne regarde pas, c'est dans la religion, c'est un acte religieux, c'est Dieu qui a demandé de le faire. Et bon, la religion chrétienne dit que non, c'est pas une obligation. Chez nous, c'est tout le contraire. Je suis musulmane en tant que musulmane et je parle sous le couvert des versets du Coran, de ceux que le prophète Mohammed nous a enseigné, les hadiths et tout. Mais je pense que la reconnaissance envers Dieu, donner quelque chose à Dieu, devrait aller directement tomber dans les mains de ceux qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire créer une solidarité et puis pour mettre un peu l'équilibre dans la justice sociale. Il y en a qui en ont suffisamment, il y en a qui n'en ont pas. Et obliger l'être humain à être solidaire vis-à-vis de son prochain. Moi, je pense que c'est très important et c'est tout le caractère moral et éthique que la religion aussi peut donner aux avoirs.
Père Moret, vous avez suivi les propos de l'apôtre Diallo. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il y a une convergence avec l'Église catholique?
Bon, ce qu'il dit, qu'il y a toujours un système qui est bon en soi-même, mais il y a des abus, il y a des gens malhonnêtes et qui utilisent l'argent d'une manière qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais le point qu'on doit dire, c'est vraiment ce qu'il dit notre cher ami musulman, que offrir l'argent à l'Église, c'est une offrande à Dieu, c'est un acte de religion, c'est un moyen d'exprimer que la foi n'est pas seulement une idée dans la tête, mais c'est une réalité vécue. Et on ne peut pas dire je vais à l'église, je prie, mais je ne donne rien. Ça ne fait pas de sens.
Est-ce que vous donnez, on doit absolument donner de l'argent?
Oui, il faut soutenir l'église d'une manière qui exprime un sacrifice dans la vie et louange à Dieu, parce que vraiment, donner l'argent, c'est louer Dieu.
Est-ce que, par exemple, si vous avez perçu votre salaire, que vous ne pouvez même pas couvrir votre loyer, est-ce qu'il faut toujours donner le dixième?
Non, c'est pour cela qu'on dit dixième, c'est ce qui dit la Bible, ça signifie quelque chose pour maintenant, l'Église dit, c'est une indication, mais ce n'est pas une obligation. C'est obligation de donner quelque chose. Et même, nous sommes tous riches des heures de la journée, on peut dire le temps à l'Église pour travailler, pour faire du bien.
Merci, apôtre Diallo. Apôtre Diallo. Allô? Apôtre Diallo, vous m'entendez?
Moi, Eric, s'il te plaît, moi je m'en vais dire, si l'apôtre Diallo n'est pas là, on peut toujours conclure. C'est donner ça. La zakat revient à promouvoir une fraternité, la justice sociale. Et tout comme il s'agirait d'opter pour un développement durable, dont les bienfaits seront palpables pour tous les membres de la société. Ça, c'est...
Merci beaucoup. Apôtre Diallo, je ne sais pas si vous êtes encore là. Apparemment,
on conclut avec ça.
On conclut avec ça. Merci pour votre contribution. C'est un sujet intéressant. On pourra peut-être revenir plus tard. Et c'est la fin de ce dialogue des religions. Bonne soirée à tous. À la prochaine.